Bonjour à tous, frères et sœurs. Je viens à vous pour vous partager la parole de Dieu pour laquelle aujourd'hui la lecture biblique se trouve dans le passage de Matthieu chapitre 5, verset 3. Tout simplement, Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus disait: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Puisse le Seigneur nous accompagner dans cette étude de la parole de Dieu et puisse-t-il nous accorder son Saint-Esprit pour recevoir la bénédiction qu'il a contenu dans ses paroles pour aujourd'hui. C'est ma prière. Voilà, frères et sœurs, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Nous sommes aujourd'hui sur une méditation sur la pauvreté et la richesse. Mais j'avais à cœur de vous parler de pauvreté et de richesse, non pas par rapport à cette pauvreté physique, matérielle, ou à nos richesses physiques ou matérielles, mais à quelque chose d'autre que vous allez sans plus tarder comprendre avec moi à travers cette étude. Pour pouvoir mieux comprendre l'idée que nous cherchons à explorer aujourd'hui et les réalités que nous cherchons à explorer, je vous invite à réfléchir avec moi sur cette brève introduction. À savoir de l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Car nous vivons dans un âge, une ère, pourrait-on dire, où la richesse intellectuelle et technologique a atteint des sommets jamais imaginés par le passé, qu'on n'aurait jamais cru possible. Et cette richesse-là, avec laquelle nous sommes tous familiers aujourd'hui, cette richesse du savoir, elle est telle qu'il est désormais même très difficile pour nous de rester très longtemps avec des questions sans des réponses. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore d'un temps où il vous était possible d'avoir des questions et pour autant de ne pas pouvoir en obtenir des réponses, des questions sur la vie, des questions sur l'origine d'une telle chose, sur l'histoire d'une telle chose. Les réponses n'étaient pas si faciles à obtenir et donc parfois on se mettait des petites étagères dans son esprit et on se disait, ça, un jour je le demanderai, si jamais j'y pense. Mais la richesse du savoir aujourd'hui rend cette simple ignorance circonstancielle, pratiquement inopérante aujourd'hui. Et je vous invite à ce passage assez intéressant de Daniel chapitre 12, verset 4, pour explorer cette pensée à la lumière de la parole de Dieu. Daniel chapitre 12, verset 4, nous lisons: Et toi, Daniel, c'est donc l'ange Gabriel qui s'adresse au prophète Daniel, il dit: Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Il y a une remarque qui est très pertinente dans la lecture de ce passage et la compréhension de ce passage, c'est que la connaissance qui était censée augmenter en ce temps de la fin, elle est principalement ici celle des prophéties. La connaissance, hein, plusieurs le parcourront, c'est-à-dire parcourront le livre de Daniel et la connaissance augmentera. Mais il y a un fait auquel on ne peut rester très longtemps ignorant, c'est que dans cette même période précisément durant laquelle ce temps de la fin, durant lequel la connaissance des prophéties était censée, destinée, prophétiquement parlant, d'augmenter, Pendant cette même période, nous assistons à l'ère industrielle. Une ère qui n'existait pas avant cela. Même dans l'âge des Lumières, la Renaissance, il ne s'agissait pas d'une ère industrielle. Nous vivons donc dans un âge industriel où la connaissance, pas uniquement des prophéties, la connaissance, le savoir des hommes et le développement des technologies, donc correspondant, ont tous augmenté. Et donc, il est correct de dire que la connaissance a augmenté non seulement de la Bible, mais du savoir dans de nombreux domaines. Dans de nombreux domaines. La connaissance dans de nombreux autres domaines a également explosé. La connaissance a explosé. Et c'est important de reconnaître cela dans le but de pouvoir faire sens du reste de notre méditation. D'ailleurs, il est un autre passage qui fait allusion, parce que nous voulons le voir à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons voir cette réalité exprimée, ne serait-ce qu'un peu, pour savoir à quoi nous accrocher. Et vous avez ce passage de Nahum, chapitre 2 et verset 4. Nahum, chapitre 2, verset 4. Parce que aujourd'hui, nous vivons cette époque, mais comment notre époque fut annoncée par le passé? Parce que nous disons dans la Bible beaucoup de choses qui n'ont, en tout et pour tout, que très peu de choses en commun avec notre époque. Comment notre époque est exprimée dans l'époque de la Bible? Nahum, chapitre 2, verset 4, nous lisons: les chars roulent avec furie dans les rues, ils se précipitent dans les places, à les voir, ils sont comme des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Ils sont comme des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Quoi? Qui sont ainsi? Les chars. Et donc, si on lit cela en essayant de comprendre du point de vue des prophètes, ça n'a pas vraiment de sens. Des chars qui sont comme des flambeaux, qui courent comme des éclairs. Mais ça a du sens, si nous pensons. Et d'ailleurs, il me semble que au Canada, dans le français québécois, on utilise souvent le mot char pour parler de voiture. Et donc, si vous changez le mot char par voiture, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. Le prophète était en train de voir en vision de l'avenir ce que nous, aujourd'hui, nous estimons comme normal, c'est-à-dire du trafic, la circulation automobile. Et tout particulièrement dans la nuit, où on ne voit que les lumières. On ne voit plus les silhouettes, on ne voit que les lumières. Qu'est-ce que c'est? Les chars courent comme des éclairs. Fou, 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 fou. Ça vous dit? Vous avez déjà vu ce genre de réalité? C'est quelque chose qui est commun. Et le prophète voyait cela. Et voilà comment c'est exprimé. Plus encore, dans Ésaïe, chapitre 60, verset 8, nous lisons, plus encore, comment la Bible exprime notre temps depuis son époque et son temps. Ésaïe, chapitre 60, verset 8. Voilà ce que le prophète Ésaïe exprime vis-à-vis de ce qu'il voit. Il dit, Ésaïe 60, verset 8, « Qui sont ceux-là, volant comme des nuages, comme des pigeons vers leur colombier ?» Qui sont ceux-là? Qu'est-ce que c'est? Volant comme des nuages et comme des pigeons vers leur colombier. Donc, le prophète ici est en train d'exprimer ce qu'il voit avec ses points de référence, à savoir des colombes qui rentrent dans leur cage et des nuages, volant comme des nuages. Qu'est-ce qui aujourd'hui vole comme des nuages? Des avions. Très haut dans l'atmosphère, ils volent à je ne sais pas combien de pieds d'altitude, n'est-ce pas? Combien de mètres ou pieds? Ils volent extrêmement haut. Et si vous connaissez un tout petit peu les bases de la science des nuages, vous avez des nuages qui sont bas, et vous avez plusieurs noms en fonction du genre de nuage dont il s'agit, et des nuages qui sont très hauts, et les avions volent si haut qu'ils sont au niveau des plus hauts nuages, et parfois, très souvent, au-dessus, au-delà même des plus hauts des nuages. Et donc il dit, qui sont ceux-là volant comme des nuages, au niveau même et au-delà même des nuages, c'est ce qu'il voyait. Et ensuite, qui sont ces colombes mécaniques qui descendent sur leur piste d'atterrissage. Donc il avait une vision de l'aviation moderne, de tous ces avions de lignes commerciaux qui se croisent les uns après les autres, qui viennent atterrir les uns après les autres sur des grandes pistes d'atterrissage et ces grands aéroports internationaux. Donc on vient de voir, Nahum, Ésaïe, comment la Bible nous a parlé du temps dans lequel nous vivons, mais en des termes si brefs et si succincts que presque on pourrait ne pas les reconnaître. Et donc, frères et sœurs, toutes ces choses-là, qui sont aujourd'hui normales pour nous, étaient toutefois, jadis, n'étaient qu'un futur éloigné et presque inconcevable pour les prophètes. Inconcevable dans le sens qu'ils utilisèrent du jargon de leur temps pour exprimer la réalité qui est la nôtre. Mais bien que, et donc, la Bible, donc, ne parle pas explicitement de nos réseaux téléphoniques, par exemple. Elle ne parle pas explicitement de nos écrans plats, ni des innombrables chaînes de télévision qui existent aujourd'hui. Elle ne parle pas explicitement de Facebook, de Instagram, de YouTube, ni même d'ailleurs de nos chers smartphones. La Bible, en effet, ne parle explicitement d'aucune de ces choses-là. Elle ne dit que cette citation que nous avons lue, à savoir « la connaissance augmentera ». C'est tout ce que nous avons, tout ce que nous avons. Et pourtant, quoique la Bible ne nous en parle pas explicitement de toutes ces choses-là qui forment notre quotidien, elle nous donne malgré tout des conseils solides pour nous extirper des pièges modernes par lesquels le diable s'efforce aujourd'hui, par toute sa ruse de démoraliser non seulement le monde, mais les enfants de Dieu. Ce que j'aimerais que nous contemplions aujourd'hui. Parce que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, nous-mêmes dans ce temps moderne-là. Et nous sommes nous-mêmes en proie à ces travers-là, ces travers du monde qui plonge graduellement le monde et le précipite vers une damnation et une destruction totale. Nous sommes nous-mêmes en proie à ces travers-là du monde qui le mettent en danger et qui le perdent. Et parmi ces travers, il y en a un qu'on ne peut tenir sous silence, si tant est que nous en réalisons le profond danger, eh bien, ce n'est autre que l'usage, et tout particulièrement l'usage excessif de nos moyens modernes de communication. Vous avez très bien compris, donc nos téléphones. Ce qui nous conduit à notre fameux passage thématique et biblique de Matthieu chapitre 5. Verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3 nous disait, Jésus disait sur la montagne, là où il enseigna, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que cela inclut pour nous? Quelles réflexions nous pouvons ressortir de cela dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes pauvres en esprit? Dans cet âge d'un savoir intellectuel gigantesque et grandissant, C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement gigantesque, il est sans cesse grandissant. Sommes-nous pauvres en esprit? La réalité, c'est que dans cet âge profondément avancé et technologique, nous sommes en proie et dans le danger de vouloir être riches. Pas uniquement riches en argent, mais riches en savoir. Et nous le voyons d'ailleurs. Nous allons le voir dans le passage d'Apocalypse chapitre 3, verset 17. La réalité, frères et sœurs, c'est que si nous examinons bien la chose, et si nous sommes en proie, comme je l'ai suggéré, à ces travers qui fourvoient le monde, et par lequel le monde se fourvoie, nous voulons être riches, et souvent, nous pensons être riches. Nous avons l'impression d'être riches. Mais dans notre incessant effort pour la richesse que le monde offre, souvent, notre richesse n'est qu'un leurre. Si vous y réfléchissez attentivement, et c'est là que prend, j'allais dire, tout son sens, et davantage son sens, c'est là que les paroles de Jésus prennent davantage leur sens. Dans Apocalypse, chapitre 3 et verset 17. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Jésus s'adresse à l'ange de l'Odyssée et par extension à travers lui aux ouailles, c'est-à-dire aux brebis, au peuple de l'Odyssée, et il dit ceci. Il lui dit « Tu es tiède », pour résumer. Et ensuite, au verset 17, il dit « Car tu dis ». Pourquoi est-il tiède? Pourquoi Jésus dit que tu n'es ni bouillant ni froid? « Car tu dis « Je suis riche ». Et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Tu ne connais pas, mais pourtant dans ton cœur tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tel est l'esprit, non seulement du Laodicéen, mais principalement, et c'est de là qu'il le sort, l'esprit du monde aujourd'hui. Un esprit de profonde suffisance que le Laodicéen ne fait qu'imiter. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est tiède, parce qu'il aime à la fois le monde et il aime Dieu, et il a un mélange de cela. Mais la leçon, il la tire du monde. Le Laodicéen est un chrétien profondément mondain, et c'est de là qu'il sort, qu'il s'inspire, qu'il imite cet esprit de suffisance. Je suis riche. En quoi cela est-il lié à l'époque dans laquelle nous vivons, frères et sœurs? Rappelez-vous, Jésus disait « Heureux », qu'est-ce que c'est ?« Heureux les pauvres en esprit ». Sauf qu'aujourd'hui, souvent, nous avons des esprits profondément riches, enrichis. Nous savons tellement de choses. Et pourtant, le royaume des cieux, par définition, n'est pas à nous. Pourquoi? Parce que dans notre quête insatiable pour la richesse intellectuelle, nous passons très souvent à côté de la vraie richesse. Hein? Je m'adresse ici à tous. Mes paroles auront davantage de poids pour les nouvelles générations dont je fais moi-même partie. À savoir, nous sommes profondément, puis utiliser le terme, bénis de tous ces moyens technologiques, et pourtant, malgré et en dépit de toutes ces avancées, il nous semble rétrogradé en capacité, faculté intellectuelle. Pourquoi? Parce que la connaissance intellectuelle des hommes fait que nous n'avons même plus besoin de chercher quoi que ce soit. Tout est à bout de bras. Tout est au toucher d'un doigt et nous avons toutes les réponses à toutes nos questions. Et donc, dans cette atmosphère-là, nous avons besoin de profondément, d'être mis profondément au défi vis-à-vis de notre réelle condition spirituelle. C'est d'ailleurs ce que Jésus essaie de faire en s'adressant ainsi à Laodicée et à l'ange de Laodicée et à nous à travers lui en disant « Tu es tiède, tu as l'impression d'être riche et en réalité tu es si pauvre, mais pas pauvre d'esprit. » Vous savez, pas dans le sens que la Bible l'entend. C'est ça que nous voulons explorer. Du moins, pas à ses yeux. Laodicéen n'est pas pauvre d'esprit à ses yeux. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je vous invite à contempler avec moi le passage de 1 Corinthiens chapitre 1. Comme je vous l'avais dit, nous sommes ici en train de contempler la question des vraies richesses. Et nous le faisons non en nous concentrant sur les richesses physiques, mais en réfléchissant à l'accumulation dans notre génération de richesses intellectuelles qui pourtant ne nous améliorent pas. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, nous lisons « Car la folie » je vais lire le contexte, c'est quand même important. Verset 21, car tandis que le monde par cette sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Qu'est-ce que c'est ? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et c'est là que nous arrivons à mieux cerner l'utilité du passage qui est notre passage clé, à savoir « Heureux les pauvres d'esprit ». À savoir, il est une pauvreté d'esprit qui est avec Dieu et aux yeux de Dieu plus sage que la sagesse du monde. Vous comprenez ? Nous allons explorer cela afin que vous cerniez totalement dans quelle direction nous nous dirigeons ici à travers cette étude. À savoir, les choses qui semblent nous rendre fortes, les choses qui semblent parfois nous rendre forts et nous ennoblir même, accomplissent souvent l'opposé. Les choses qui semblent nous rendre forts, par lesquelles nous semblons nous enrichir, en réalité nous appauvrissent. Je vous invite à lire le passage de Jacques chapitre 2, verset 5. Dans cette réflexion, je vous invite à un examen de conscience, car je ne suis pas moi-même le Saint-Esprit, mais je sais que le Saint-Esprit a opéré en moi à travers cette réflexion afin de me conduire à un changement et une transformation. Et je pense que c'est également son désir pour nous, car mes mots sont précisément les travers du monde auxquels nous sommes exposés en cette dernière génération. Dans Jacques chapitre 2, verset 5, nous lisons le suivant. Et c'est donc dans le contexte d'hommes riches, de personnes faisant des différences, mais vous allez voir que nous ressortons de ce passage quelque chose qui a trait à une richesse spirituelle, une richesse supérieure, une richesse spirituelle. Jacques chapitre 2, verset 5, je lis. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? Qu'est-ce que c'était justement que nous avions vu? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Parfois, nous voulons être comme le monde, sauf que Dieu n'a pas choisi les choses sages du monde, mais a choisi les choses folles du monde pour que ces personnes héritent du royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, en cherchant à nous, à devenir des imitateurs du monde, à obtenir les richesses que le monde désire, l'accumulation de connaissances après lequel le monde est à fait la course, eh bien nous ne nous rendons pas un service, mais nous nous appauvrissons. Nous avons lu donc, qu'est-ce que c'est? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Qu'est-ce que c'est? Jésus disait, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, qu'est-ce que c'était? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi les pauvres en esprit sont heureux? Ils sont heureux s'ils sont riches dans la foi. Donc un homme simplement ignorant n'est pas heureux uniquement parce qu'il est ignorant. Il est heureux si dans son ignorance, il augmente sa richesse dans la foi. C'est ce que nous voulons explorer plus en détail. Donc, ne serait-ce qu'à travers ce passage et dans le lien avec tous les autres que nous avons contemplés, nous voyons, frères et sœurs, dans cette méditation sur la véritable richesse, nous voyons que la richesse de la foi est présentée dans la Bible comme un trésor que nous n'aurons pas d'ailleurs à regretter d'avoir accumulé. Pourtant, il y a des trésors qu'il nous faudra regretter d'avoir accumulés, car ils sont plus un poids qu'une aide. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jacques fait comprendre dans son exhortation du chapitre 5. Et donc, la richesse de la foi est un trésor. Et comment pouvons-nous, frères et sœurs, en pratique, obtenir et élargir ce trésor? Parce que il nous arrive souvent, très souvent, de lire dans la parole de Dieu des vérités et pourtant de ne pas vraiment en saisir la réalité. Donc nous avons la vérité, mais ça n'est pas pour autant une réalité. J'avais une discussion il y a très peu de temps avec un collègue de travail et il semblait être persuadé que réalité n'était pas synonyme de vérité. Il n'avait pas tout à fait tort parce que dans la vie de nombreux croyants, la vérité n'est pas pour eux une réalité. Vous comprenez? Donc, et c'est d'ailleurs tout à fait en phase avec ce que l'esprit de prophétie nous dit vis-à-vis du fait que beaucoup ont la vérité, mais qu'ils l'ont dans le parvis extérieur. Elle n'opère pas réellement dans leur vie. La vérité n'est pas pour eux une réalité pratique. Elle est pour eux simplement une réalité intellectuelle. Et c'est là que vous avez la fameuse parabole des 10 vierges. 5 sont sages, 5 sont folles. Toutefois, elles sont sages selon Dieu, et les autres sont folles aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Vis-à-vis de ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 25 à 29. Ou 28, je ne sais plus. Oui, c'était 29. Donc, la question, je la réitère, comment pouvons-nous, frères et sœurs? Parce que nous venons de lire que la richesse qu'il nous faudrait chercher et avoir, c'est la richesse de la foi. Pauvre de ce monde, riche en la foi, afin d'être héritier du royaume de Dieu. Jésus disait, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, car ils hériteront du royaume de Dieu. La Bible nous dit également « Heureux les débonnaires, car le royaume de Dieu est à eux. » Nous lisons dans ce passage du psaume 46, verset 11, où nous allons, il semblerait, faire un saut dans notre raisonnement, mais qui en réalité n'est pas un saut dans la pratique. Dans le psaume 46, verset 11, nous lisons ceci. Le psaume 46, verset 11. Je l'introduis toutefois, à savoir la raison pour laquelle je vous partage ce passage, c'est parce que notre grand problème dans cette génération, c'est que en accumulant tant de savoir et aussi en étant tant distrait, parce que ce sont des connaissances qui ne sont pas réellement spirituellement utiles, donc ce sont réellement des distractions, en accumulant donc tant de savoir, tant de connaissances, en, semble-t-il, élargissant nos capacités intellectuelles, quoique en réalité nous les appauvrissions, eh bien, le problème sous-jacent, c'est que nous nous déconnectons de Dieu. Et donc, nous avons besoin de cette réinitialisation afin de pouvoir accumuler la vraie richesse, la bonne richesse, la richesse de la foi. Mais la richesse de la foi, elle est liée à une personne. Donc, on ne peut pas avoir la foi sans être lié et connecté et sans communier avec Dieu. Et donc, vous avez ce passage du psaume 46, verset 11 qui nous dit « Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. » Vous savez, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que cette deuxième partie du verset est là à faire là? Quel est le rapport? Mais alors, rien à voir. Alors qu'en réalité, ça a tout à voir. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Dieu sera exalté parmi les nations lorsqu'il y aura un peuple qui s'arrête et qui se concentre sur lui afin que Dieu puisse être en lui. Comme c'était marqué dans notre école du sabbat, à savoir Colossiens chapitre, je crois que c'est chapitre 1 verset 26-7, à savoir Christ en vous ou en nous, l'espérance de la gloire. À savoir la gloire de Dieu en nous. Et donc, je reprends. Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu, ou bien, pour reprendre le langage de la Bible anglaise, soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Soyez tranquille, be still, et sachez, know, que je suis Dieu. Nous avons besoin donc. Et c'est pour ça que le langage est doublement intéressant à la fois en anglais et en français, à savoir nous avons besoin de nous arrêter, cesser, dit Dieu, arrêter toute cette consommation frénétique de contenu qui n'édifie pas. Cesser, arrêter. Et cela arrive même à des jeunes ou âgés. Vous trouvez des fois face à des personnes qui sont âgées, qu'on penserait qu'elles sont sages, et en réalité, elles n'ont pas plus de maîtrise de soi qu'un enfant de 2 ans. Pourquoi? Parce que nous tombons dans les pièges des derniers jours. Et donc, Dieu dit, cessez, arrêtez, et concentrez-vous sur moi. Cessez, dit Dieu. Et donc, je ne saurais ici exprimer le poids de sens qui est contenu dans cette exhortation de Dieu, dans cette ère dans laquelle nous vivons où les chars se croisent comme des éclairs et où les avions descendent sur les pistes d'atterrissage comme des colombiers et où la technologie et les moyens de communication ont tant augmenté que nous ne savons désormais plus qu'en faire et que ça n'existe plus le temps où il nous arrivait d'avoir des questions et de les garder pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Si nous avons une question, nous n'avons qu'à la poser à l'intelligence artificielle qui est fournie en tête des moteurs de recherche et nous avons la réponse, ou du moins une ébauche. Et donc, nous n'avons presque plus d'efforts à faire et dans cette cacophonie de savoir et d'avancées technologiques sans nom. Dieu dit stop, stop, arrêtez-vous et méditez. Méditez, cherchez, trouvez, assurez-vous d'un endroit de silence. Un endroit, faites des pauses et rééquilibrez votre relation avec moi. Nous avons besoin donc de nous arrêter afin de pouvoir obtenir une richesse que nous d'ailleurs ne pouvons obtenir d'aucune autre manière. Hein? Une richesse qui dépend non pas seulement de nos possessions terrestres ou bien de notre savoir mondain ou bien même de notre savoir biblique, mais qui dépend de la relation que nous avons et que nous entretenons avec Dieu. C'est-à-dire que la richesse de la foi va dépendre de la relation que nous avons et que nous entretenons avec Dieu. Vous allez me dire, c'est ce que moi je dis, c'est une réalité, frères et sœurs. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous n'avons pas de foi. La foi sans Christ, ça n'existe pas. Et donc, si nous sommes trop accaparés par les choses que le monde nous offre, eh bien, nous avons besoin de nous arrêter, de faire marche arrière ou de nous isoler et de nous concentrer sur Dieu afin que nous puissions le connaître. Le connaître dans le sens le plus intime d'ailleurs, afin qu'il puisse entrer en nous et que nous puissions entrer en lui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être plus proche de Jésus. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme ne peuvent pas être plus proches les uns des autres, l'un de l'autre, que Christ peut être proche de nous, il peut être en nous. Vous comprenez, il n'y a pas de proximité plus étroite que celle que Dieu désire et devrait avoir avec nous qui sommes prétendument chrétiens. Et ici, j'aimerais que nous puissions lire le passage de In Heavenly Places à la page 85 et au paragraphe 5, où l'esprit de prophétie nous dit le suivant, je le lis, en lien avec ce que nous venons de voir. Gardez jalousement vos heures de prière et d'examen de conscience. Réservez une partie de chaque jour à l'étude des Écritures et à la communion avec Dieu. C'est ainsi que vous obtiendrez une force spirituelle et que vous grandirez dans la grâce et la faveur de Dieu. Grandirez ou croîtrez. Hein, croître dans la grâce et la faveur de Dieu. Lui seul, Dieu seul peut diriger nos pensées dans le bon sens. Lui seul peut nous donner de nobles aspirations et façonner nos caractères à la ressemblance du divin. Si nous nous approchons de lui par des prières sincères, il remplira nos cœurs de buts élevés et saints et d'un désir profond et sincère de pureté et de lucidité. Nous avons besoin non seulement de ces choses-là, mais du désir pour ces choses-là. Mais si nous sommes trop distraits, piégés par les choses que le monde nous offre, toutes ces distractions, eh bien nous n'avons même pas le désir, sans parler de la chose. Nous n'avons même pas le désir de la chose sans pour autant parler de la chose elle-même. Vous comprenez? Et donc, nous avons besoin de nous approcher de Dieu, de cesser, de nous arrêter, de garder jalousement nos heures de prière et d'examen de conscience, et de réserver une partie de chaque jour à l'étude des Écritures et à la communion avec Dieu. C'est ainsi, de cette manière-là, que, je cite, nous obtiendrons une force spirituelle et que nous grandirons dans la grâce, nous croîtrons dans la grâce et la faveur de Dieu, afin que, en grandissant ainsi en Dieu, dans cette grâce, dans la communion avec lui, Dieu puisse diriger nos pensées dans le bon sens. C'est-à-dire que si nous avons été si affamés, nous sommes dans une telle famine spirituelle à cause de toutes ces distractions mondaines, de tout ce savoir, cette connaissance qui en réalité ne nous édifie pas, eh bien, Dieu ne peut même plus diriger nos pensées parce que notre champ de vision intellectuelle est constamment rempli de contenu. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons besoin de cesser, afin que Dieu puisse nous donner, diriger nos pensées dans le bon sens et nous donner de nobles inspirations, façonner nos caractères à la ressemblance du divin. Voilà donc l'importance, en lien avec cette exhortation de la parole de Dieu que nous avons lue dans le psaume 46, l'importance pour nous de garder jalousement nos heures de prière et d'examen de conscience, de réserver une partie de chaque jour à la communion avec Dieu, tant à travers sa parole que d'ailleurs à travers la nature. À travers la nature, j'aimerais le lire ici, ça se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 73 et au paragraphe 4. Au sujet de Jésus, nous lisons cet exemple et cette description de la relation qu'il entretenait avec Dieu, ou je devrais dire avec la nature et avec Dieu, et avec Dieu à travers la nature. C'est écrit ici, Jésus-Christ, page 73, verset paragraphe 4. À partir du moment où Jésus fut trouvé dans le temple par ses parents, sa conduite fut un mystère pour eux. Il évitait la controverse, mais son exemple constituait une leçon constante. Il paraissait mis à part. Son plus grand bonheur était de se trouver seul avec Dieu dans la nature. Toutes les fois qu'il en avait l'occasion, il s'éloignait du lieu de son travail. Il se rendait dans les champs, méditait dans les vertes vallées, goûtait la communion avec Dieu sur les pentes des montagnes ou au milieu des arbres de la forêt. Souvent, on aurait pu le voir en un lieu solitaire, de bon matin, méditant, scrutant les Écritures ou en prière. Après ces heures tranquilles, il rentrait au foyer pour reprendre ses tâches et donner l'exemple de la patience dans le travail. Donc nous voyons que Jésus trouvait son plus grand bonheur seul avec Dieu dans la nature. Hein? Son plus grand bonheur était de se trouver seul avec Dieu dans la nature. Et donc, lié à cet appel à cesser, à demeurer tranquille, afin de pouvoir communier avec Dieu, de pouvoir le connaître personnellement, est également cet exemple de Jésus dans la relation qu'il avait avec Dieu à travers la nature. Hein? Son plus grand bonheur était de se trouver seul avec Dieu dans la nature. Donc il y a un élément d'une haute importance dans la relation que nous entretenons avec Dieu à travers la nature. La raison pour laquelle j'insiste sur cela, c'est parce que souvent, nous pouvons rentrer dans une routine de formalité alors que une relation avec la nature peut briser cette routine. C'est-à-dire que la nature a un moyen d'adoucir nos sens et de nous mettre en phase avec le langage corporel, pour ainsi dire, de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est son langage du cœur, mais la nature, c'est son langage du corps. Et vous savez combien on dit souvent, je l'avais entendu il y a plusieurs mois ou quelques années, c'est que dans une conversation, le plus grand pourcentage de la conversation et de ce qui se communique ne vient pas des mots, mais du langage corporel, c'est-à-dire de nos expressions, de nos gestes. Ceci communique davantage que simplement nos mots. L'atmosphère que nous dégageons, le regard que nous portons, les gestes qui sont les nôtres et qui manifestent notre état d'esprit, cela parle souvent beaucoup plus que nos paroles en elles-mêmes. Et donc, lorsque nous venons à la nature, nous sommes en train de venir à Dieu, non pas par le biais d'une messagerie SMS, ou d'une messagerie WhatsApp, ou d'une messagerie Messenger, mais nous venons à Dieu en face à face. Vous comprenez? On pourrait penser que cela est superficiel, c'est optionnel. En réalité, ça ne l'est pas. Si vous essayez de par exemple, d'être marié à quelqu'un uniquement à distance, vous êtes très vite confronté à un problème dans la communication, parce que nous communiquons beaucoup par qui nous sommes, l'atmosphère que nous avons. Souvent, beaucoup, une grande partie de notre communication se fait pas uniquement par les mots, mais par le ressenti, par les regards, par les mouvements. Et toutes ces choses, Dieu ne peut nous les communiquer que par la nature, parce que la Bible ne nous transmet pas toutes ces choses-là. Ou du moins, que d'une façon très minime, l'esprit de prophétie parfois nous donne des descriptions de la manière dont Jésus se comportait, mais c'est très limité. Et c'est donc ainsi, et pour cette raison, que nous avons besoin de communier avec Dieu à travers la nature, pas uniquement à travers l'examen de conscience et l'étude des Écritures. Et cela contribuera à ce que nous répondions à l'appel de cesser et de savoir et reconnaître que l'Éternel est Dieu dans notre vie. Hein, c'est donc ce passage connu du psaume 19. Et d'ailleurs, j'avais une réflexion sur cela en lien avec ce qui est marqué au verset 8. Donc dans le psaume 19, vous le lisez, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Sa gloire, son caractère, les cieux racontent cela. Pas uniquement les cieux, mais la terre, les arbres, les feuilles, les fleurs, les buissons, les oiseaux, les poules, les canards, les veaux, les vaches, les chevaux, les poneys, les ânes, l'herbe qui bouge au vent, le vent, les tempêtes, les orages, la pluie, la grêle, toutes ces choses racontent la gloire de Dieu. Pas uniquement la parole. Et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas. Autrement dit, c'est un langage et ce sont des paroles que nous pouvons entendre. Et donc, Dieu se fait également entendre à nous par le moyen du langage de la nature. C'est comme ce que nous venons de dire. Dans une conversation, en face à face, la grande majorité, je crois que c'était 80%, quelque chose comme cela, la grande majorité de ce qui est transmis ne se fait pas par les mots, mais par le corps. Et donc, la Bible nous dit bel et bien que la nature est un langage. C'est le langage qui raconte la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Verset 5, « Leur voix se répand par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. » Donc, il n'y a pas un endroit où nous ne puissions pas entendre la voix et les paroles que nous communique la nature. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil, etc. Et ensuite, verset 8, vous lisez, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité, les jugements de l'Éternel ne sont que vérité, ils sont tous également justes, ils sont plus désirables que l'or, ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que ce qui découle des rayons de miel. Aussi ton serviteur est éclairé par eux, il y a un grand salaire dans leur observation. On pourrait se demander, et d'ailleurs je n'ai jamais réellement eu cette réflexion, à savoir pourquoi est-ce que les six premiers versets parlent de la nature et que les versets 8 à 12, à savoir les quatre versets suivants, parlent de la loi de Dieu. Quel est le rapport? Eh bien, c'est que la loi de Dieu est comme l'esprit de prophétie nous dit, est une transcription du caractère de Dieu. Donc le caractère de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et nous venons de lire que les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, si nous lisons à juste titre la nature, nous y trouverons la même gloire que la loi nous communique. La gloire de Dieu, le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, voilà, on peut ici comprendre mieux l'esprit du législateur. Et, en passant, mieux comprendre l'esprit de notre Sauveur, de notre Créateur également. Toutes ces choses, la nature nous les communique, non pas elle seule, mais elle combinée à l'illumination que nous donne la parole de Dieu. Et lorsque nous ferons cela, eh bien, nous acquérerons la richesse de la foi. J'aimerais conclure avec le passage suivant. Dans Jésus-Christ à la page 289 et au paragraphe 1, où il est écrit ceci. Les premières paroles que Christ adressa au peuple sur la montagne furent des paroles de bénédiction. Heureux, dit-il, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui éprouvent un besoin de rédemption. L'évangile doit être prêché aux pauvres, non pas aux orgueilleux, à ceux qui sont riches à leurs propres yeux et n'ont besoin de rien, mais au cœur humble et contrit. Une source a été ouverte pour le péché, elle est seulement accessible aux pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas pauvres en esprit, qui ne reconnaissent pas leur pauvreté spirituelle, remarquez ici la définition de la pauvreté d'esprit. Il s'agit non pas d'une ignorance intellectuelle, mais de reconnaître notre pauvreté spirituelle. Telle est la définition succincte de l'esprit de prophétie pour cette expression « pauvre en esprit ». Il s'agit de ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui éprouvent un besoin de rédemption. Eh bien, pour éprouver ce besoin de rédemption, frères et sœurs, je vous mets en avant cette suggestion forte, c'est que nous avons d'abord besoin, et d'ailleurs la Bible le soutient, nous avons d'abord besoin de nous arrêter. Parce que le monde nous donne tellement de choses pour accaparer nos sens que cela nous ôte notre sentiment de besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes comme ce Laodicéen en disant « Je suis riche, je me suis enrichi de connaissances, quelles qu'elles soient mondaines ou même bibliques, et je n'ai besoin de rien. » Qu'est-ce que c'était? L'évangile doit être prêché aux pauvres, non pas aux orgueilleux, à ceux qui sont riches à leurs propres yeux et n'ont besoin de rien. Donc l'évangile, par définition, n'est pas pour le Laodicéen. À savoir, le Laodicéen, celui qui dit en son cœur « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », l'évangile ne peut aider un tel homme ou une telle femme. Vous comprenez? Donc nous avons d'abord besoin de ressentir notre besoin et alors nous pouvons avoir accès à la source de vie, la source qui a été ouverte pour le péché, hein, c'est Jésus-Christ. Car cette source est seulement accessible aux pauvres en esprit. Et à cela, j'aimerais ajouter cette dernière citation, qui se trouve dans Patriarches et Prophètes, page 587 et paragraphe 3. Patriarches et Prophètes, page 587, je lis. Nous sommes ici en train de réfléchir à la vraie religion, n'est-ce pas? À la richesse de la foi, à la différence des richesses qui sont trompeuses, même les richesses intellectuelles. Je lis la vraie religion rétablit l'harmonie entre l'homme et les lois divines, physiques, mentales et morales. Elle produit la maîtrise de soi, la vraie religion. Elle produit la maîtrise de soi, la sérénité, la tempérance. Elle ennoblit l'esprit, épure l'appréciation des choses. Elle sanctifie le jugement. Elle donne à l'âme un avant-goût de la pureté céleste. La confiance en Dieu et en sa souveraine providence allège le fardeau de nos tracas et de nos soucis. Dans la plus haute situation comme dans la plus humble, elle fait déborder le cœur de joie. La religion fortifie la santé, prolonge la vie et procure la jouissance de tous les bienfaits du ciel. Donc nous parlons ici de la religion qui devient la nôtre lorsque nous nous arrêtons et que nous nourrissons cette relation de foi avec Dieu. Lorsque nous communions avec Dieu, nous avons la vraie religion. Et que fait-elle? Elle fortifie notre santé, prolonge la vie, procure la jouissance de tous les bienfaits du ciel. Elle ouvre à notre âme une source intarissable. Hein? Qu'est-ce que c'était? La source pour le péché a été ouverte en Christ. Cette vraie religion ouvre à notre âme une source intarissable de bonheur. Vous vous rappelez de ces paroles que Jésus il avait adressées à la femme samaritaine. Il disait, si tu bois de cette eau que j'ai à offrir, tu n'auras plus jamais soif. Et donc, si nous venons à Christ comme à notre sauveur personnel, nous avons accès à une source intarissable de bonheur. Rappelez-vous, Jésus trouvait son plus grand bonheur dans la communion avec Dieu, dans la nature. Vous voyez le lien ici? Oh, si les hommes savaient combien les choses que Jésus-Christ leur offre sont supérieures à celles auxquelles ils aspirent par nature. L'homme qui agit et qui pense contrairement à la volonté de Dieu fait à son âme le plus grand tort et la plus grande injustice. Il ne peut y avoir de joie réelle dans les sentiers interdits. Il ne peut y avoir de joie réelle dans les sentiers interdits par celui qui n'a en vue que le bien de ses créatures et sait comment y contribuer. Le chemin de la transgression conduit au malheur et à la destruction, mais les voies de la sagesse sont des voies agréables. Et tous ces sentiers conduisent à la paix. Tous les sentiers de la sagesse de Dieu, rappelez-vous, la sagesse de Dieu qui est une folie pour les hommes, tous les sentiers de la sagesse, toutes les voies de la sagesse sont des voies agréables et tous ces sentiers conduisent à la paix. La paix avec Dieu, rappelez-vous, ce que Romains nous dit, c'est-à-dire que il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et nous avons maintenant la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix, c'est la paix de la richesse, de la foi, de notre communion avec Dieu, de la vraie religion, celle qui nous procure le plus grand et le plus véritable bonheur. Donc voilà, frères et sœurs, c'est ma prière que dans cette brève méditation, nous ayons pu recevoir des révélations, que nous ayons pu être mis au défi de nos idoles, mis au défi vis-à-vis de nos caractères profondément défectueux et également que nous ayons eu une lueur, une mise en lumière de l'espérance qui est la nôtre si nous voulons bien nous saisir de la gloire de Dieu, nous saisir de Jésus-Christ, recevoir Jésus dans nos cœurs, nous arrêter pour connaître Dieu, le connaître intimement, le connaître personnellement. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Puisse le Seigneur nous accompagner, illuminer, continuer d'illuminer notre entendement et nous révéler les endroits dans lesquels nous avons été dérobés. Nous avons été cambriolés où le diable nous a ravi notre paix afin que nous puissions la retrouver. Une paix avec Dieu à travers la prière, à travers l'étude de sa parole, à travers l'examen, nos examens quotidiens de conscience et, non pas des moindres, à travers la nature. car à travers la nature, nous voyons, nous entendons, et la gloire de Dieu nous est racontée. Et Dieu nous parle aussi. C'est un langage, ce sont des paroles qui s'entendent. Et puisse Dieu nous donner des oreilles, des yeux et les sens et le discernement pour entendre ce langage et l'absorber, afin que, à travers ces choses, ces révélations de Dieu, nous puissions communier avec Dieu et obtenir la vraie richesse à laquelle peut-être nous avons aspiré de mauvaise manière. Mais maintenant que Dieu nous a éclairés, puissions-nous marcher dans ce sentier, des sentiers qui conduisent à la paix. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.